Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents parmi nous pour un anniversaire. La Talente fête ses 30 ans, ou presque, on va y revenir. La Talente, maison d'édition de science-fiction, de fantasy, une époque de polar et même de livres de cinéma, une maison d'édition culte qui fête ses 30 ans. Et on va, avec nous, toute, en partie presque toute l'équipe de La Talente est ici. Alors on va présenter le papa de La Talente, Pierre Michaud, qui a fondé sa librairie il y a 40 ans et sa maison d'édition il y a 30 ans. Donc c'est un double anniversaire. Et Pierre Michaud a sûrement plein d'anecdotes qu'il va nous raconter sur la création de La Talente. Il y a le papa et puis à ma gauche, la maman, Mireille Rivalan, directrice littéraire de La Talente et actuelle co-gérante. Et forcément, il y a les enfants autour. Alors il y a Pierre Bordage, qu'on ne présente peut-être plus, auteur des Guerriers du silence, de Wang, qui a commencé à La Talente. À côté de Pierre, il y a Yann Olivier, assistant éditorial, assistant de Mireille Rivalan et aussi l'homme de main de Mireille Rivalan, autre fonction qu'il exerce secrètement. Et à ma gauche, tout au bout, Denis Detras, qui est responsable d'édition numérique et qui s'occupe des droits étrangers et qui est traducteur aussi de Dimitri Glukowski. Et moi, je vais peut-être me présenter brièvement. Je suis aussi un enfant, finalement, un enfant de La Talente. L'œil de chéri. Je suis journaliste pour le magazine Le Point Pop. C'est le moment publicité. Je vous encourage à prendre ce numéro où Pierre Bordage est présent avec un article et une tribune. Voilà. Alors, on va commencer à revenir. On va remonter un peu le temps avec Pierre Michaud. Pierre, c'était quoi les origines de La Talente ?
À l'origine, ça marche là, oui. À l'origine, c'est une librairie de 15 mètres carrés dans le centre de Nantes, qui est née en 79 exactement. Et des livres ont été édités un peu un par un, entre 81 et 88. Et si nous fêtons les 30 ans, c'est parce que le vrai démarrage de l'édition, avec des livres 15 par an au début, c'est 88. Voilà.
Est-ce que vous pouvez rappeler l'origine du nom La Talente ? Pourquoi La Talente ?
La Talente parce que c'était une librairie du cinéma au départ. D'ailleurs, les premiers livres qu'on a publiés étaient des livres de cinéma. Et La Talente, c'est le film de Jean Vigo. Je me souviens que j'avais appelé la nièce de Jean Vigo, Luce Vigo, pour lui demander si ça ne lui posait pas de problème que cette librairie s'appelle La Talente.
Alors ça a commencé avec le cinéma, il y a eu un peu de polar, mais surtout beaucoup de SF et aussi de la fantasy. Quelle était votre vision de l'imaginaire ?
L'idée au départ, alors les premières fantaisies, c'était Michael Moorcock, qui avait eu son heure de gloire en France et qui avait un peu disparu à ce moment-là, à la fin des années 80. L'idée, et puis il y a eu des romans purement romanesques, des romans policiers. L'idée, et c'était le nom de la collection à l'époque, ça s'appelait, rappelle-moi.
La bibliothèque de l'évasion.
La bibliothèque de l'évasion. L'idée, c'était de regrouper un peu tous les genres de littérature de genre, justement, sous la rubrique des heures de lecture, des heures de lecture
merveilleuses,
passionnantes.
Ah, ouais. ça, passionnant.
Et donc l'idée, c'était de brasser tout ça, de pas faire une collection ni de science-fiction ni de polar, mais de brasser tout ça. Et puis un jour est venu où les représentants nous ont dit ah non ça va pas, les libraires ils savent pas où mettre vos livres, il faut identifier chaque genre. Voilà. Mais l'idée, c'était des livres, des romans. Où on ne déplace les lecteurs que pour de grandes choses, pas pour un adultère dans le 16e arrondissement ou un règlement de compte avec son père d'IP1 et tout ça. Voilà, c'était ça le projet.
Alors maintenant, 30 ans après, Mireille Rivalan, quelle vision de l'imaginaire, La Talente ?
Alors La Talente est vraiment fidèle à ses origines. Donc moi j'appelle ça des heures de lecture merveilleuses, mais en fait ça s'appelle aussi, et de façon essentielle, de la littérature populaire. C'est ces livres que les gens choisissent de lire. Ce n'est ni le Goncourt, qui est un livre de belle-mère, qui peut parfois être un excellent bouquin, mais qui est un livre de belle-mère, parce que c'est pas loin avant Noël, donc vous allez l'acheter, vous avez un cadeau tout prêt. Et ce n'est pas un livre scolaire. Voilà. Donc nous avons toujours, je pense, suivi ce que Pierre avait voulu faire à la base, c'est-à-dire faire des livres populaires, et la science-fiction est un genre populaire.
Alors on va continuer à remonter le temps avec un jeune auteur nommé Pierre Bordage. Pierre Bordage, comment vous avez vous êtes rentré en contact avec la
Talente ? Remontez pas si loin, s'il vous plaît. comment j'ai rencontré la Talente ? D'abord, j'ai fait mes études à Nantes et je n'ai jamais entendu parler de la Talente avant, parce que je suis parti de Nantes avant que la Talente se crée, parce que je dois être parti au début des années 80 de Nantes. Et j'ignorais totalement l'existence de la Talente. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Guerres du Silence. C'était en 85-86. Et je cherchais à le faire publier, mais je n'étais pas tellement au fait de l'état de l'édition de science-fiction francophone en France, où les auteurs étaient confinés dans des collections très restreintes, de 188 pages souvent. Et moi, j'arrivais avec un manuscrit de 700, et donc je n'ai pas trouvé d'éditeur. Donc j'avais un peu abandonné l'idée de faire publier le livre au bout de 6-7 ans. Jusqu'à ce que je travaille sur les Champs-Élysées, que je descende au Virgin, pardon pour la pub, mais ça n'existe plus d'ailleurs. Ça. Non, bon, c'est bon. Et que je vois les livres d'Orson Scott Card publiés par La Talente. J'aimais beaucoup Orson Scott Card. J'ouvre le livre, je vois le nom du traducteur, qui c'est Patrick Couton. Donc un conseil, si un jour vous voulez publier La Talente, il faut connaître Patrick Couton, c'est la première chose.
Il est dans la salle. Hein.
La deuxième chose, il faut prendre des cours de banjo avec lui. Et la troisième chose, c'est de se souvenir de son téléphone quand on a un manuscrit dont on ne sait pas quoi faire et qu'on a vu qu'il était traducteur à La Talente. Et il m'a dit, je téléphone, il me dit, ah oui, le Vendéen, merci. Donc déjà estampillé, n'est-ce pas je lui ai dit, j'ai un manuscrit, qu'est-ce que tu penses, je peux l'envoyer à La Talente. Et puis, je l'ai fait parvenir à ce monsieur-là, Pierre Michaud. Et trois semaines après, je reçois un coup de fil de Pierre, qui me dit « Allô, Pierre Bordage, ici Pierre Michaud, des éditions de La Talente. J'ai lu votre manuscrit, c'est bourré de défauts. Ok. Les méchants ne sont pas bien définis. Bon. Et pendant 20 minutes, il me fait une critique du livre. Et puis moi, j'y tiens plus trop. Et j'ai dit « Mais pourquoi vous m'appelez au juste ?»« Ah, mais parce que je vais vous publier. »« Ah bon, merci beaucoup. » Et puis il me dit « Bien sûr, vous avez prévu 3 tomes. » Je dis « Oui, bien sûr. » Et il me dit je vous fais le contrat pour les 3 tomes. Et on s'est mis d'accord aussi sur le fait que, comme j'avais écrit le livre 8 ans plus tôt et que j'y voyais beaucoup de défauts, on s'est mis d'accord pour le fait que je le réécrive, ce qui l'arrangeait parce que du coup ça passait sur informatique. C'était la naissance des Macintosh, et donc j'ai acheté un Macintosh vite fait. Et donc j'avais un disque dur d'un seul coup, c'est très extraordinaire. Donc j'ai réécrit tout le livre et puis je l'ai livré 2 mois après environ. Réécrit, et puis ça a été publié. Et je me souviens parce que je suis descendu à un moment, après être resté longtemps au téléphone avec Pierre, je suis descendu, je travaillais à l'étage, je suis descendu, puis je vois ma femme, ma maman, puis je lui dis, elle me dit alors c'était quoi ? Incroyable, Les Guerres du Silence, il va être publié. Ah bon ? Alors on a fait la fête tous les deux, mais on était les deux seuls sur Terre à faire la fête pour ce bouquin, mais ça valait le coup quand même. Voilà, et puis ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai eu la place de faire le livre, d'être publié dans son intégralité, c'est-à-dire le premier tome faisait 700 pages, d'avoir un livre un peu chic. Je ne sais pas ce qu'est le format, c'était italien, c'est ça le format
Le premier volume était en 13-18.
13-18, voilà, c'était très joli et ça a mis du temps, j'ai mis du temps à me faire publier, mais au moins le fait d'être à La Talente, ça m'a permis d'être tout de suite crédible parce que le livre était crédible, il était beau, il était fier. Et du coup, moi, je m'installais en tant qu'auteur et c'était beaucoup plus facile.
Pierre Michaud, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez lu Pierre Bordage ?
Oui, je m'en souviens, mais là, il a raconté que des bêtises. Hein.
Pas du tout, non, je m'en souviens, j'ai enregistré de toute façon. J'ai des pièces à charge.
Alors oui, je me souviens, ça a été une découverte parce que effectivement, oui, je voyais plein de redondances, de défauts, mais je me disais, mais ce type sait raconter une histoire. Il vous tient. Il y avait beau avoir ce que je trouvais, moi, des défauts, je n'ai pas pu décoller du manuscrit. Alors là, dans ces cas-là, évidemment, on n'hésite pas. Même s'il y a du travail, du retravail à faire, on n'hésite pas. Quand on n'a pas décollé d'un manuscrit vraiment avec une partie de la nuit, c'est significatif. C'est décisif, même.
Et puis Mireille Rivalan a travaillé aussi sur Pierre Bordage avec Wang, je crois, et L'Enjeu mineur, entre autres.
Effectivement, l'histoire qu'ils vous ont racontée, enfin, les deux fils d'histoire, ça a eu lieu pendant que moi j'accouchais de mon troisième enfant. Donc j'étais en congé maternité et Pierre m'a apporté le manuscrit de Pierre Bordage à lire après que j'avais accouché. Et de toute façon, le contrat était déjà signé, donc je ne risquais pas effectivement de les contrarier beaucoup. Et j'ai accompagné un peu Terra Mater et Les Guerriers. Mais moi, le premier livre que j'ai vraiment à part entière travaillé avec Pierre, du coup, qui avait beaucoup, beaucoup moins de défauts, bien sûr, parce qu'il avait beaucoup travaillé avant, c'est Wang. Voilà. Mais il avait encore une tendance à l'adverbe, hein, quand même, un peu fréquente.
Je sais que l'adverbe, c'est l'ennemi de l'écrivain, et l'adjectif aussi, de temps en temps. Hein. Surtout
trois ou quatre adjectifs, ouais, ça devient long. Et tu te demandes si tu vas mettre le « et » ou pas le « et », puis tu tentes la virgule, et c'est toujours en trop, en fait.
Et puis aussi, la talente, c'est des auteurs étrangers, Terry Pratchett, Orson Scott Card, Le Guin, en effet, Glenn Cook, Dimitri Glukowski, Marie Brennan. Comment ils sont tous arrivés là?
Alors, je peux me lancer, mais vas-y,
Pierre. Au départ, honnêtement, il y a beaucoup de livres que les éditeurs réputés de science-fiction avaient refusés. Chez Card, Pratchett, par exemple, a été refusé par plein d'éditeurs avant qu'il arrive sur mon bureau. Ça peut paraître aujourd'hui étonnant, mais c'est la vérité.
L'édition de science-fiction se cantonnait aux éditions de poche, essentiellement, à part la magnifique collection de Gérard Klein. Et effectivement, il fallait que ça rentre dans les clous de ce que la maison Pocket et la maison J'ai lu, et le livre de poche, à l'époque, pouvaient estimer valable pour leur lectorat. Et ils n'étaient pas très inventifs, je pense. Donc, il y avait vraiment une place pour un éditeur indépendant. Et quand on démarre, on est extrêmement... on n'a peur de rien, puisqu'on n'a rien à perdre.
De toute façon, un petit éditeur inconnu qui démarre, il a deux options. Soit la réédition, parce que de toute façon, les grands auteurs français, les auteurs dont il a envie français, il n'a pas accès. Bon, il a deux options. C'est soit la réédition de grands classiques, classiques modernes, mais qui ont disparu des librairies, soit le vivier de la littérature étrangère. Alors là, il y en a tellement que les mailles du filet des grands éditeurs en laissent passer beaucoup et on y a accès.
Je crois que Denis Detraz est aussi arrivé avec Dimitri Glukowski. Est-ce qu'il peut rappeler un peu l'anecdote?
Oui, alors je suis arrivé à la Talente avec Dimitri, mais en tant que traducteur.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'était en 2009. J'avais parlé avec Pierre et Mireille de Night Watch et des Watch de Lukianenko et il savait que j'étais lecteur russophone. À part ça, ça n'avait pas abouti, le seul avait acheté les droits. Et lorsque le métro arrive, Mireille me demande est-ce que je peux le lire. Très volontiers, je fais une lecture, une fiche de lecture. Et bouquin que j'aime beaucoup, que je lis très rapidement. Et Mireille me dit, mais vu que tu es russophone, est-ce que ça te dirait d'essayer de le traduire? Bah, j'ai dit, on va essayer. Et puis voilà, là j'en suis au sixième bouquin de Gluco traduit.
Très bien. Alors on a évoqué brièvement les étrangers. On a aussi la French Touch. La Talente, c'est aussi beaucoup d'auteurs français. Jean-Marc Ligny, Olivier Paquet, Roland Wagner, Sylvie Denis, Catherine Dufour, Jean-Claude Duniac. Comment vous avez pensé cette French Touch, Mireille? Est-ce que,
Alors là, Pierre a tout à fait raison. Petit éditeur, tous les grands auteurs françaises sont forcément déjà publiées. On a eu la chance de publier Pierre Bordage, qui nous a quand même... si ça a été important pour toi, Pierre, ça a été important pour nous aussi. Pour ma part, nous ne sommes qu'un catalogue. Un éditeur est un catalogue. Et sans doute que le seul souci qu'on avait, c'était de faire des livres qui donnent envie aux lecteurs, mais qui donnent envie aussi aux autres auteurs de venir nous rejoindre. Et il est tout à fait juste que, entre les choix de réédition de Pierre Michaud par rapport à ses lectures de jeunesse et de jeunes adultes, par rapport aux gens qui nous ont trouvé des livres intéressants et qui passaient pas dans les et qui enfin qui passaient à travers les mailles du filet des grands éditeurs, le fait que Pierre est un succès populaire immédiat, parce que la presse, tu n'étais pas là, soit Lloyd, mais la presse ne s'est pas rendu compte du tout que Pierre Bordage existait pendant des années. Donc c'est vraiment les libraires et les lecteurs qui ont fait le succès de Pierre Bordage. Eh bien, effectivement, nous avions un catalogue, parce que Terry Pratchett, c'est 92, Les Guerriers du Silence, c'est 93. Enfin, nous, Moorcock, Orson Scott Card, Pierre Bordage, Terry Pratchett, les grands succès de la Talente, c'est autour des années 90, au tout début des années 90. Et à partir de ce moment-là, oui, le milieu de la science-fiction est un milieu beaucoup moins large que maintenant, à l'époque, mais les libraires et ce milieu que nous découvrons, nous, tout doucement, nous n'en sommes pas issus, eh bien, ils nous reconnaissent comme les éditeurs de Pratchett, de Pierre Bordage, et on prend contact. Et à ce moment-là, ben effectivement, peu à peu, les choses évoluent. Hein. Tout d'un coup, tel éditeur ne peut plus continuer à travailler avec tel auteur. Tel auteur a tout d'un coup un projet où, dans les discussions, on se dit, mais on a envie de le faire ensemble. Et petit à petit, nous avons pu, je dirais, nous faire entourer hein, et partager la Talente avec, bon, moi, des gens dont je rêvais, hein, Serge Lehmann, Roland Wagner, Jean-Marc Ligny. Et puis voilà, puis après c'est nous qui avons fait démarrer des gens, qui leur avons permis aussi d'être connus à nouveau. Et ça continue. Voilà.
Alors les 30 ans de la Talente, c'est aussi l'opportunité d'en savoir un peu plus, les détails croustillants, les anecdotes. J'ai cru comprendre, Pierre Michaud, que vous avez à un moment donné un manuscrit d'un certain George R.R. Martin nommé Game of Thrones. Non, le trône de fer, vous avez
Alain Katnik.
C'est pas passé.
C'est Alain Katnik qui ne te l'a pas fait lire, je crois, Pierre.
Mais je l'ai pas eu, j'ai pas lu.
Oui, mais tu ne l'as pas lu.
Ça a eu aucun succès, donc. Hein.
Oui. Non, alors, mais peut-être ne te le rappelles-tu pas, Pierre. Il avait lu un livre de Martin qui a été publié depuis au Bélial, me semble-t-il. Yann, tu dois savoir de quoi il s'agit. Ah, d'habitude, je compte sur Yann.
C'est pas quelque chose comme Armageddon Blade ou quelque chose comme ça ?
En tout cas, il avait lu ce livre remarquable qu'il pensait pas très, très littérature populaire. Et du coup, il a lu Martin, Game of Thrones, mais je pense qu'il ne te l'a pas fait lire ou il a hésité parce qu'il s'est dit « Oh, c'est quand même beaucoup moins bon. »
Ouais, ce qui m'avait
ça,
dit...
Ça ne te rappelle rien, Pierre ?
Non, ça ne me rappelle rien. Mais c'est clair que c'est des aventures, des mésaventures qui arrivent à tous les éditeurs, ça. Chacun a dans son placard une bévue comme celle-là.
Et je crois qu'il a laissé filer. On met tout sur le dos de Katnik, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, qui était notre scout de l'époque. On l'a invité pourtant. Et il a aussi laissé filer Robin Hobbs, je crois. Ouais, je pense.
Je crois que c'est vrai.
Hein, ça y est, ça te revient. Ça.
L'assassin royal, le trône de fer. C'est dur.
Après, oui,
mais c'est les autres qui ont laissé filer Pratchett.
Voilà. À la même époque, quand tu traduis Moorcock, Pratchett et Orson Scott Card, bah, t'as plus tellement d'espace pour d'autres auteurs.
Oh, si, quand même. On trouve toujours de l'espace.
On peut se trouver des excuses.
Nous, on en a laissé filer d'autres. Hein.
Alors, Yann, Olivier, ouais, et après, on posera la question à Mireille, mais comment ça fonctionne, la Talente de l'intérieur, maintenant ?
Plutôt bien.
Mais encore.
C'est-à-dire, pour quel sujet précis pour de l'arrivée d'un bouquin, en clair, il y a trois arrivées principales. Ça va être les agents pour les auteurs étrangers. Là, le premier interlocuteur, c'est Denis, qui va après répartir les livres en langue originale vers Alain ou moi, ou alors c'est Alain qui lui-même scoute. des livres en anglais pour après nous les rapatrier et qu'on discute tous ensemble pour savoir si c'est pertinent ou non de les publier. L'autre voie d'accès sont des auteurs que nous publions déjà ou que nous connaissons, que nous rencontrons sur des salons ou qui nous envoient juste un mail. Donc voilà, c'est des gens qu'on connaît déjà et qui ont déjà publié. Et dans ces cas-là, bah, c'est tout simplement, on va regarder, on va lire et on va suivre. Et la dernière, c'est la chasse au trésor dans les manuscrits où on a une pile énorme et on essaye d'en trouver un de temps en temps. Et c'est beaucoup de boulot, mais c'est toujours un plaisir de trouver un nouvel auteur. C'est aussi l'objectif d'être éditeur, c'est de trouver toujours des nouvelles perles et des nouveaux noms.
Mireille Rivalan veut...
Alors, moi, j'ai la chance maintenant d'avoir Liane donc, à mes côtés, qui a pris mon relais sur les manuscrits français qui arrivent par centaines chaque année. Donc du coup, j'ai tendance à attendre qu'il ait trouvé une perle et qu'il me la fasse relire. Et puis autrement, ben, moi, je me mets à la disposition des auteurs que nous publions pour lire leurs dernières envies d'écrire. Et du coup, j'espère toujours que ça va beaucoup me plaire parce que c'est plus difficile de refuser un manuscrit à quelqu'un qu'on n'a pas publié qu'à quelqu'un qu'on a publié. Voilà, ça, c'est la dure vie de l'éditeur. Hein. C'est que quand même, on dit essentiellement non. Alors... de façon un peu distante quand ce sont des gens qui envoient des manuscrits entre guillemets par la poste, maintenant c'est par courriel parce qu'on ne se connaît pas, même si ça reste toujours c'est quelque chose de très particulier hein. Cette attitude de non et qui blesse la personne en face souvent ou la fragilise. Il faut vraiment trouver sa position pour continuer à faire ça longtemps. C'est pour ça que je remercie Yann, mais c'est parce que c'est la lecture des manuscrits qui arrivent, c'est vraiment de l'endurance hein. Et il ne faut pas perdre l'appétit, il ne faut pas perdre l'envie tout d'un coup de découvrir quelqu'un. Il ne faut pas louper. Enfin, il ne faut pas louper. Parce que ne pas vouloir d'un auteur parce que ça ne nous plaît pas beaucoup, bah, c'est la vie de l'éditeur, ce que disait Pierre. On en laisse aux autres. Ils doivent envier des choses que nous avons. Et on se dit, ah ça, on l'aurait bien publié aussi. Mais par contre, c'est quand même extrêmement important de pouvoir être disponible pour percevoir quelque chose dont on a envie. Et ça, c'est pas rien.
Alors, on les oublie souvent, mais ils sont très importants. C'est les traducteurs. Et la traduction a quand même une place importante à la Talente. Pour vous, Pierre Michaud, mettre en avant les traducteurs, en tout cas avoir de bons traducteurs, c'était quand même important.
Ah bah oui, parce que le début du catalogue, ça a été... bon, je ne parle pas de la partie cinéma, hein, mais pour ce qui est de la science-fiction, ça a été tout des textes traduits. Les Français, comme expliquait Mireille, sont arrivés seulement après, quand ils ont vu que le catalogue s'était déjà un peu étoffé. Donc oui, la qualité des traducteurs, ça a toujours été au centre des préoccupations de la Talente.
Je pense que la façon de travailler de la Talente avec les traducteurs, dont Pierre a été le maître d'œuvre, est quand même, je pense, pour beaucoup dans la réputation de la maison.
Pierre Michaud, c'est quoi les grandes réussites de la Talente, alors, pour vous?
À quel point de vue? Du point de vue des livres traduits? Du point de vue de quoi?
Tout, global, pour les 30 ans, qu'est-ce qui...
Bon, alors, il n'y a pas que de la science-fiction. Hein. Bon, moi, j'ai bon, vous savez que le premier livre qu'on a publié, c'était les Mémoires de Groucho Marx. Figurez-vous que ça aussi, les éditeurs avaient laissé passer. Je crois que le livre n'est plus disponible. Je ne sais pas s'il est encore disponible aujourd'hui. Bon, les Mémoires de Groucho Marx, c'était un travail de traduction aussi assez cocasse. Mais autrement, bon, il y a un ouvrage sur Jacques Demy, le cinéaste, qui a vraiment...
qui est une des références.
Hein, ah, oui, oui.
C'est une des références.
Ah, oui.
Sur Jacques Demy.
Qui est un livre français de Jean-Pierre Berthaud. Mais... Alors, autrement, bon, alors... Alvin Lefeuzeur d'Orson Scott Card, le Gloriana de Michael Moorcock, celui-là, je crois qu'on l'a fait en 89 ou 10. Le Gloriana de Moorcock, qui n'avait jamais été traduit. Ça, c'est une belle œuvre. C'est Patrick Couton qui doit être quelque part dans la salle. Avant qu'il s'attaque à Pratchett, c'est lui qui avait fait ça. Bon, Mireille va le citer mieux que moi encore, parce que c'est elle qui a beaucoup travaillé sur le livre. Le rêve de gloire de Roland Wagner, qui est un livre qu'il avait porté pendant de longues années de sa vie, et il hésitait toujours à se plonger dedans. Il a fini par le faire. Bon, ça, c'est aussi un grand livre chez nous. Il y en a beaucoup que j'oublie, là, mais ils ne viennent pas en tête, c'est tout.
Ah non, mais on prend le relais. Moi, je vais laisser aux autres après, mais je citerai, moi, dans... Alors, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pierre, bien sûr. Tout est juste. Et seulement pour Jacques Demy, on a d'ailleurs une édition qui a été mise à jour il y a 3 ans. Hein, donc, c'est vraiment un livre qui est toujours d'actualité. Sinon, en fait, pour moi, les livres qui ont vraiment changé après... Pierre Bordage et Terry Pratchett, mais qui ont changé le catalogue de la Talente. Il y a eu Serge Lehmann, Le Livre des Ombres, Roland Wagner, Le Livre est là, Rêve de gloire. Oui, Roland, c'est 10 ans. C'est 10 ans où on n'a pas arrêté d'en parler tous les deux. Il en parle avec plein d'autres gens, j'imagine, mais on savait qu'on le publierait ensemble. Et puis, il y a eu l'extraordinaire aventure de la Brigade Chimérique quand nous avons... eu l'envie de faire de la BD et qu'il y a eu cette rencontre entre Serge Lehmann, Fabrice Collin, qui est un homme qui n'a pas fait des ouvrages qui ont été très reconnus quand on a travaillé avec lui, mais qui a été un homme important aussi, moi, dans ma carrière d'éditrice. Et donc, quand avec Jess, tous les trois, ils se retrouvent et qu'ils font la Brigade Chimérique, on a vécu un moment d'une excitation et d'une joie. Enfin, être éditeur, c'est beaucoup de joie. Voilà. Quand on a passé sur le labeur et sur plein de choses compliquées, mais que de joie. Quoi. Et j'avoue que oui, quand Roland a eu le prix ici, oui, c'était sans doute moi parmi les plus grands moments d'émotion que j'ai eu à vivre. Et puis voilà, quand on a pu aussi avoir la Brigade Chimérique, et puis continuer une aventure aussi longue avec Pierre Bordage, par exemple, ce compagnonnage. Parce que bon, certains ont quitté le bateau, Roland est mort. Certains vont publier ailleurs parce qu'on n'est plus dans les mêmes aventures. Et puis, il y a des choses qui ont 30 ans presque aussi. C'est, par exemple, des compagnonnages comme avec Pierre. C'est quand même ça, la vie d'une maison d'édition.
Pierre Bordage, alors, 30 ans...
En tant qu'auteur vendéen traduit. 30 ans... Moi, ça fait pas tout à fait 30 ans, ça fait 25. 93... J'ai dû fournir bon an mal an, sauf ces 2 dernières années, un livre par an à peu près depuis que je suis avec la Talente.
Il y a 3 projets en cours et on tient à tous.
Ouais, c'est ça le problème. Ah. C'est des projets, quoi.
Je ne veux pas vendre la mèche.
La peau de l'auteur vendéen avant de l'avoir.
Mais il y a quand même l'apparition, on l'attendra peut-être longtemps, mais l'apparition...
C'est vrai, il va mettre du temps à apparaître.
Ça fait 3-4 ans que t'en parles, ouais.
C'était un plaisir parce que ils m'ont suivi. C'est vrai que je suis allé voir d'autres éditeurs aussi. Je n'ai pas toujours été très fidèle, mais quand même, j'ai gardé une fidélité. La Talente, c'était toujours mon éditeur de base, mon éditeur de référence. Et donc, j'ai essayé de fournir régulièrement et de faire plusieurs types d'expériences, par exemple sur l'enjeu mineur. On m'a suivi un peu partout, même sur Orqueron, on m'a suivi.
Bon, ça, c'est Itacle, voilà.
Juste entre nous.
C'était pour non, penser à Orqueron que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est ça ?
Orqueron,
oui. C'est Absalon, j'ai beaucoup aimé Absalon.
Oui, donc c'était une vraie belle aventure. Ça m'a permis d'expérimenter plein de choses au niveau de l'écriture. J'ai toujours été content parce que j'ai travaillé dans des conditions très confortables à Talente. Il faut savoir ça aussi, quand on est auteur, on est un peu fragile par moments. Sur le plan financier, surtout. La Talente a été une régularité.
Vous croyez que c'était que psychologique, tes soucis ?
Non, c'est aussi important. Et la Talente a été d'une régularité, d'une exemplarité que je voudrais souligner ici. Vraiment, cet aspect-là m'a beaucoup marqué dans ma vie d'auteur, de pouvoir savoir que je pouvais compter sur un éditeur, quoi qu'il arrive. J'en ai eu d'autres, hein, qui sont certainement dans cette salle. Mais voilà, la Talente, c'était une sorte de référence pour moi. C'était mon port d'attache. C'est toujours, d'ailleurs, plus ou moins, même si là, je suis parti un petit peu loin dans au large. Mais je reviens. J'arrive pour l'an prochain, je pense. Et toujours avec le même plaisir.
Yann-Olivier, alors, votre livre préféré à la Talente ?
Le livre préféré, c'est quand même très dur. Et puis, il y en a beaucoup qui sont passés. Enfin, là, on parle de Rêve de gloire, de Michael Moorcock. Moi, pour Michael Moorcock, ce serait Chien de guerre ou La douleur du monde. Absolument merveilleux, avec un inkipit parfait. C'est en cette année où la cruauté exigea que l'on crucifie les jeunes paysans ainsi que leurs animaux domestiques. Enfin, on comprend tout dès cette première phrase. Et du coup, moi j'ai eu un rapport assez particulier aussi avec le Livre des Ombres, parce que ça a été vraiment, j'étais encore ado à l'époque, et le livre était vraiment bouleversant. Il retraçait, il y a vraiment une tentative de retracer l'ensemble de l'histoire de l'humanité, de sa création jusqu'à sa perte dans les étoiles. Et on passe par de multiples moments, et vraiment l'impression d'être face à une œuvre complète, en fait. Et sinon, oui, des œuvres comme celle de Sylvie Denis, avec des phrases aussi merveilleuses que l'individu sert la communauté, sert l'individu, qui sont forcément nécessaires et qui marquent précisément.
Toi, les nouvelles de Jean-Claude Dugnac aussi t'ont beaucoup pour accompagner ton adolescence.
Ouais. Tout à fait, oui.
Tu m'en as.
Denis ?
Alors, c'est pareil, il y a comme beaucoup de livres. Moi, il faut savoir que je suis un très grand fan de Terry Pratchett. Donc, alors, j'ai quasiment pas lu en français, je l'ai lu essentiellement en anglais. Lorsque Pierre et Mireille m'ont proposé de travailler à La Talente, ça a été un petit peu le rêve fou, quoi. Je ne peux pas passer à côté de Gluckowski. Alors, certes, je suis un petit peu les jugés partis là-dessus, voilà. Mais Soumerki a été un défi et un bonheur à traduire qui je pense que c'est un très très grand bouquin. Et puis il y a toute la nouvelle génération, il y a Becky Chambers et son optimisme permanent sur l'espace d'Anan et sur Libération, et sur cette interrogation sur le vivre ensemble. John Scalzi qui est là. Le vieux homme et la guerre, ça commence par le jour de mes 75 ans, j'ai fait deux choses. Je suis allé sur la tombe de ma femme et je me suis engagé. Pareil, c'est une première phrase d'un roman qui. Tu dis, ouais, là, il y a quelque chose, quoi.
Au bout de 30 ans, comment on fait pour se renouveler, Mireille Rivalan ? Est-ce qu'on ne tombe pas dans quelque chose ? C'est la Talente, c'est une grande maison ? Est-ce que c'est. Parce que maintenant, on peut facilement être catalogué comme la maison référence. Comment on fait pour se renouveler, pour aller chercher de nouveaux talents ou...
Alors d'abord, on embauche des jeunes.
C'est important.
On pense qu'ils vont être beaucoup plus en forme. Et puis qu'ils vont avoir des idées qui correspondent aussi. Parce qu'il faut renouveler le public. Il faut le renouveler le public de 15-20 ans. Puisque le public... d'ailleurs, vous en êtes la preuve. Tu as été un client de la librairie La Talente et un lecteur de La Talente, de même pour Yann, de même pour Denis. Vous continuez à en lire. Vous suivez. Mais par contre, il faut retrouver la nouvelle. Enfin, il faut retrouver tout le temps la jeunesse, puisque je vous disais que nous publions des livres que les gens choisissent. Mais donc, il faut tout le temps que la science-fiction, en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on publie, mais qui ne cesse jamais. D'avoir de nouveaux auteurs et de nouveaux champs d'écriture possibles, il faut aussi qu'ils s'adressent aux nouvelles générations. Donc je pense que des Yann-Olivier, des Denis de Traz et d'autres gens d'ailleurs dans l'équipe, qui sont plus jeunes que moi et donc de Pierre, ont permis vraiment que cela dure. Après, on n'a pas mauvais goût non plus, il faut le dire. On a pu les appuyer, mais il faut se faire confiance. Quand je vois avec Yann que nous pouvons porter cette année chacun avec une... Il y a des moments où on est plus ou moins d'accord. Quand je dis on ne publie jamais un livre sur lequel nous ne serions pas d'accord tous les deux, un livre français, puisque ça se passe surtout entre Yann et moi. Le Johan Elliott qui a apparu en septembre, que nous portions avec l'auteur depuis 2-3 ans, Frankenstein 1918, on est à fond et voilà. Et puis il y a un livre que tout d'un coup Yann porte plus, d'un auteur que j'aime beaucoup aussi, Camille Le Boulanger. Et il y a Catherine Dufour, Entends la nuit, où c'est moi qui dis à Yann, ah j'y crois vraiment, il me dit t'es sûr. Oui, on s'accompagne comme ça, malgré tout, et on se complète. sur la publication. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que dans une maison d'édition, qui n'est donc pas une grande maison d'édition, mais qui est une maison d'édition qui a donc duré, donc on a su être suffisamment chanceux, suffisamment habile, suffisamment fidèle à nos valeurs et à nos auteurs et aux libraires pour pouvoir durer, mais c'est un travail collectif. Et c'est ce que, voilà, nous sommes arrivés à être une équipe de 8 en édition plus 2 personnes en librairie, mais c'est un travail collectif. Nous prenons tout le temps des décisions à plusieurs et je pense que c'est ce qui permet aussi de durer. Pierre avait lancé les livres étrangers. Il se trouve que quand j'ai pris un petit peu d'assurance, c'est moi qui me suis plus occupée des Français. Nous avons su vraiment partager et nous avons su nous compléter. Et c'est ce que moi, j'ai pu poursuivre avec l'ensemble de l'équipe.
Vous avez aussi connu une évolution dans l'édition, puisqu'avant, il y avait moins de maisons d'édition qui faisaient de la science-fiction et de la fantasy ou de l'imaginaire. Et depuis les années 2000-2010, il y a de plus en plus d'auteurs, de plus en plus d'éditeurs. Comment vous voyez ça, cette appétence, cette envie d'avoir plus encore peu, et il y a de plus en plus de choses. Comment vous analysez ça, Mireille?
Il faudrait plus de lecteurs encore, non?
C'est ça.
En fait, les lecteurs, ils sont merveilleux, hein, mais il faudrait qu'ils aient plus d'heures, plus de sous, enfin plein de choses comme ça, quoi. Moi, je veux bien des lecteurs augmentés.
Pierre Michaud?
Je peux rien ajouter à ça.
C'est vrai?
Oui.
Comment vous voyez maintenant... Est-ce que déjà vous continuez à lire de la science-fiction?
Je continue à lire La Talente. Le fait est que, vous savez, je suis à la retraite là maintenant, ça fait 4 ans.
Vous avez un peu de temps pour lire peut-être?
J'ai du temps pour lire, oui. Mais je lis beaucoup de choses autres aussi. Donc, je ne suis plus à Nantes. Bon, je ne suis plus vraiment dans le coup. Hein. Moi, c'est la partie historique. Mais les lecteurs augmentés, j'adore ça.
Pierre Bordage, je ne vous ai pas demandé votre livre.
Est-ce que vous augmentez les auteurs, d'ailleurs?
Je savais. Non, mais alors, quand je n'ai pas Jean-Claude Duniac pour m'attraper, j'ai Pierre Bordage. Ils savent exactement, mais récupérer tout ce que je dis de légèrement de travers.
Pierre Bordage, je ne vous ai pas demandé tout à l'heure votre livre préféré de La Talente, alors.
Alors, il y a les historiques, il y a probablement les chroniques d'Alvin Lefebvre. Et les récents, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers, qui m'a vraiment... C'était vraiment un coup de cœur pour moi, ce livre.
Et quel livre de La Talente a été le plus épique à écrire?
Le plus épique à écrire, alors je dirais le plus douloureux à écrire, c'est peut-être une autre forme d'épique, ce sont Les Griots Célestes, qui m'ont carrément arraché le cœur. Je crois que Pierre, il venait à la maison chercher des chapitres. Non, c'était Absalon, ça, non? Et elle m'a mal calmé avec un verre de vin blanc pendant que j'imprimais le chapitre là-haut pour lui donner, parce que j'étais vraiment à la bourre. Il y a eu des livres comme ça où c'était vraiment extrêmement difficile et je ne sais pas pourquoi. Les Griots Célestes ont fait partie.
C'est pas celui-ci sur lequel tu as perdu 15 chapitres parce que tu ne savais pas archiver tes dossiers? C'est une question sincère, ce n'est même pas un piège.
C'est pas sur Wang plutôt?
Ah, peut-être, oui. En tout cas, oui. Ça doit être sur Wang. 15 c'est... chapitres. Oh, il était forcément terriblement en avance.
En fait, c'est complètement bidon, c'est parce bonheur que je voulais justifier mon retard. Voilà.
Mais Les Griots, oui, et c'est marrant, tu dis que ça a été douloureux, et moi j'ai le souvenir que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui n'a pas connu un grand succès. Et
non, c'est le moins...
Fort désolé. Et je me souviens de le corriger en écoutant La Passion Saint-Mathieu.
Ouais, voilà. C'est ça, tu m'avais dit ça. Ouais. Et puis, il y a des livres plus jubilatoires. Absalon était assez jubilatoire. Les Griots Célestes, c'était vraiment de l'innocence pure, donc c'était très différent. Quand Alexandre Sargos, avec qui j'ai fait le livre d'entretien, Le Diable Vauvert, est allé voir le cahier original des Griots du Silence, il m'a dit, mais c'est incroyable, il n'y a pas de rature. Quoi. Et, parce qu'il exposait à la BNF. Et effectivement, il n'y avait pas de rature, c'était vraiment une jubilation. Et puis après, les livres, ils ont tous des aventures, des histoires un peu différentes avec l'auteur. Moi, je traverse un peu toutes les émotions quand j'écris des livres. Et des fois, c'est douloureux. Et Les Griots Célestes, je sais pourquoi elle était douloureuse à écrire, elle était bercée par la mort de mon frère. Moi-même, j'ai eu un infarctus à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment le livre qui était environné de mort. Et le livre était sur la mort, probablement, parce que les griots sont des gens qui s'effacent en permanence, puisqu'ils sont pris par une énergie qui les emmène d'un monde à l'autre. Ce qui veut dire, par la loi de relativité, qu'ils ne vont plus voir les personnes qu'ils quittent. Donc, ils sont condamnés à n'aimer personne, parce que sinon, c'est trop douloureux de quitter les gens. Et donc, c'est un livre sur l'effacement permanent. Donc, c'est un livre sur la mort, en gros. Et ce livre a été bercé par la mort. Et c'était... quand je l'ai fini, c'est comme si j'avais arraché de moi une partie extrêmement douloureuse. Puis je file à l'éditeur en me disant « démerdez-vous avec ça, je ne veux plus en entendre parler ».
Alors on a un peu de temps encore, on a une quinzaine de minutes. On va peut-être laisser le public s'exprimer sur la Talente. Questions ou remarques, bien sûr, ou messages d'amour, c'est possible.
Oui, je voudrais vous poser une question. Il y a quelques années, vous avez lancé le projet d'une encyclopédie de la science-fiction. Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Pierre Michaud, non ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre Michaud ?
Bah, vous avez forcément remarqué que c'est un échec.
Oui, d'accord. Mais enfin, c'est un échec quand même. Les contrats précisaient que même en cas de non-parution, les auteurs toucheraient quelque chose. Or, certains n'ont jamais rien touché. Je suis un d'eux.
Mais c'est un scandale.
C'est un scandale, mais je n'ai jamais rien touché. J'ai adressé une lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune réponse.
Bon, on discutera de ça après, mais ce qui est intéressant, c'est que tout sort sur la table aujourd'hui. Les anecdotes, les ratés, les succès, les échecs. Donc c'est intéressant.
Pourquoi n'a-t-elle jamais paru ?
Pourquoi ça n'a pas paru ?
Oui.
Ah oui, alors ça, on a une réponse. Les personnes qui étaient en charge de ce travail n'ont pas réussi à mener ce projet à terme.
Merci pour la réponse. On va passer à une autre intervention. Monsieur qui est là-bas.
Ah, bonjour. Alors, La Talente, c'est une maison d'édition que je connais depuis très peu de temps, mais que j'ai su apprendre à aimer très rapidement, notamment grâce à une collection dont j'aimerais bien que vous parliez, les classiques de l'imaginaire, donc La Vigna de Ursula Le Guin. Voilà, là, j'ai le roman du roi Arthur, bien sûr, de Thomas Malory, et puis il y a d'autres, bien que vous en parliez.
Denis ?
Allez.
C'est tout.
Bah, l'idée, c'était de publier des grands textes qui transcendent le genre, en fait, qui sont accessibles à même nos gens qui disent « j'aime pas la SF » ou « j'aime pas ceci, j'aime pas cela ». Et en termes de fabrication, ça correspond aussi à un moment où un imprimeur nous a contactés en nous présentant une matière un peu particulière qui s'appelle le fiscagoma, dont est faite la couverture, ce qui permet de faire des très beaux objets, je trouve. Voilà. Et c'est une collection qui est nourrie de manière apériodique. Donc là, ne vous attendez pas à des parutions très régulières, mais elle est toujours là et elle va continuer à s'agrandir.
Je précise juste une chose, ça rebondit sur les questions que posait Lloyd à propos de comment durer. Donc, pour pouvoir durer, il faut avoir un fonds. Et ce fonds de catalogue à ces moments de vieillissement ou de tirage qui s'épuisent. Et donc, effectivement, on remet aussi à jour et on refait ressurgir dans la mémoire des libraires et des lecteurs des livres qui ont été importants et qui n'ont plus tant d'actualité. Donc, effectivement, créer cette collection avec la définition de Denis était parfaitement juste sur ces grands livres qui traverse le genre, eh bien, on a pris cette décision pour cette raison-là aussi, pour les remettre en accès au public.
Je voulais rajouter, oui, le roman du roi Arthur, c'était quand même une grande chose, ça aussi. Figurez-vous, le livre de Thomas Malory, c'est la référence anglo-saxonne en matière de saga arthurienne. Tous les films d'Excalibur et autres qui s'inspirent de l'épopée arthurienne sont pris sur ce livre-là, et ce livre n'avait jamais été traduit en 5 siècles, donc.
En entier,
jamais.
Il y avait des bouts, je crois.
Il y avait des extraits dans des éditions savantes bilingues, avec anglais ancien et français moderne en traduction. Mais l'intégrale n'avait jamais été traduite comme un roman, alors que ça fait partie des premiers romans de l'histoire. Une organisation comme un roman moderne, déjà. Bon, ça a été aussi une grande chose. Hein. J'avais oublié de le citer.
Une question, oui.
Oui, bonjour. Vous avez parlé des auteurs phares de La Talente, mais vous n'avez pas cité Esbar, Andrés Esbar. J'aimerais savoir un peu comment s'est passée la publication de Esbar.
C'est affreux, on en oublie plein. Merci.
Pierre, comment ça s'est passé ?
Alors, Esbar, d'où ça ?
C'est Annette.
Le précédent directeur artistique, le premier directeur artistique de ce même festival des Utopiales, rappelle-moi son nom.
Bruno Della Chiesa.
Bruno Della Chiesa, qui était, bon, qui travaillait dans une organisation internationale, qui est quelqu'un qui parle et qui lit 5 langues. Et c'est lui qui nous l'avait, on y était ensemble, présenté à ce qui a précédé les Utopiales. Ça se passait au Futuroscope de Poitiers à l'époque. Hein.
Ça s'appelait Utopia
avant de s'appeler les Utopiales. Voilà. Et c'est là qu'on a rencontré pour la première fois Andreas. Et puis, bon, ben, il est vrai aussi que chez nous, il y a une Allemande qui travaille et qui lit les textes allemands. Elle s'appelle Annette.
Mireille, sur le...
Oui, mais c'était pour enchaîner sur le fait qu'effectivement, nous avons cette chance d'avoir des collègues qui parlent beaucoup de langues européennes. Et nous avons pu aussi, c'est une des particularités de la Talente, c'est d'avoir pu avoir accès à des textes dans des langues européennes qui n'étaient pas l'anglais, ce que dans certaines maisons, ils n'avaient pas pensé. Enfin, nous, on n'a pas fait ça pour ça. Mais il s'est trouvé que la Talente s'est retrouvée entourée de gens d'origine variés sur le plan linguistique, et ça fait des gens qui peuvent, avant les autres, que ce soit en espagnol, en allemand, en russe, en italien, quand ça s'est trouvé, peuvent lire plutôt que d'autres les livres et nous donner accès.
Oui, tous les directeurs de collection de science-fiction traditionnellement lisent le français et l'anglais, et nous, on a eu la chance d'avoir d'autres lecteurs.
Une question là au fond.
Trop petite. Tout à l'heure, on a parlé du comment vous visiez le nouveau public. La Talente, c'est aussi, il me semble, une collection un peu plus jeunesse. À quel moment, dans une maison, on décide de s'approcher plutôt de la jeunesse ? Est-ce que c'est un peu un nouveau travail à l'édito ? Comment vous l'avez vécu ?
Yann ?
T'es jeune.
Ouais, je suis jeune, mais du coup, c'est pas forcément mon domaine de prédiction. Bah, c'est surtout une question de rencontre. Il me semble que c'est la rencontre avec Stéphane Manfredo, qui était le directeur de cette collection, qui propose tout simplement d'accompagner une nouvelle collection. Du coup, le Maèdre, et du coup derrière, qui va proposer des textes et des auteurs. Avec qui nous sommes vraiment heureux d'avoir travaillé et de continuer à travailler. Des auteurs comme Karina Rosenfeld, comme Anne Fakouri vont intégrer le catalogue par ce biais-là. Après, pour ce qui est de comment on continue ça, bah, c'est comme toutes les histoires de rencontres, parfois... cette rencontre se finit, on ne rencontre pas quelqu'un pour continuer, et puis et du coup ça fait quand même maintenant quelques années que cette collection est plutôt en peine, mais nous sommes heureux de l'avoir fait, et puis peut-être une nouvelle rencontre nous permettra de continuer dans cette direction de la même manière, d'une autre manière. Enfin, nous on est toujours preneurs de ce genre de choses.
Mireille ?
C'est vrai qu'il y a une caractéristique, enfin, il me semble, hein, il y a une caractéristique de la Talente qui est que nous ne sommes pas extrêmement directifs en matière de livres à publier. On serait plutôt des jardiniers. C'est-à-dire qu'on a eu des rencontres, il y a des auteurs qu'on a publiés, et puis ça pousse, enfin, on les regarde, on les accompagne, on arrose. On met un peu d'engrais, on crée un regard, un compagnonnage. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Pierre Bordage. Nous n'avons jamais, par exemple, quasiment, enfin, c'est pas notre façon de fonctionner, nous ne passons pas commande. Nous attendons que les auteurs aient envie d'écrire et des textes à publier. Et d'ailleurs, Pierre peut témoigner, Pierre Bordage, que nous, très rarement, enfin en général d'ailleurs, tu écris ton texte et ensuite on en parle pendant que tu l'écris et tu as ton contrat après avoir écrit le texte. Ce n'est pas une méfiance, quoique, mais... mais disons que les bons rapports... en fait, on a rien, enfin, on ne regrette rien de cette façon-là. Et ça, je crois que Pierre Michaud, c'est toi qui me l'as appris, ça. Donc, je continue au maximum à l'appliquer. C'est-à-dire que on peut trouver à terme qu'on s'est un peu trompé, que le livre était moins bon qu'on pensait, que l'auteur était plus chiant qu'on pensait. Enfin bon, bref, ou qu'il n'avait pas d'avenir. Enfin, bon. Tout simplement, quand on le fait, on y croit. Voilà. On l'a vraiment, on s'est vraiment choisi. Et c'est ce qui permet, j'irais, d'avancer. Alors, pour la jeunesse, ben, il y a eu un moment, effectivement, comme dit Yann, il y a eu des rencontres, il y a eu cette envie de faire, de découvrir, parce que nous, on découvrait. Moi, en fait, la littérature jeunesse, par exemple, moi, je m'en fiche complètement, à la base. Et ce Stéphane qui nous dit, mais moi, je m'en fiche pas, c'est super important, on fait un bout de chemin avec lui, et grâce à ça, mais j'ai découvert des auteurs extraordinaires, hein, et qu'on a été fiers de publier. Et alors, je ne vous demande pas de venir nous dire que vous avez une super idée et on va tous faire des trucs ensemble. Ça prendra, ce sera autrement. Il faut, mais on a toujours fonctionné comme ça. On s'est choisi avec des auteurs, avec des collègues, avec des partenaires, avec des gens qui sont devenus des collègues. Et ça, c'est haut et c'est bas. Mais par contre, il n'y a pas de regret.
On va prendre une dernière question. Ouais.
Bonjour. Je suis une grosse lectrice de science-fiction depuis que j'ai 10 ans et à un moment j'étais confrontée au fait que je ne pouvais pas tout lire et j'ai fait le choix, notamment pour des raisons politiques, de ne lire plus que des autrices. C'est un sujet qui revient souvent depuis plusieurs années là, sur les tables rondes, de quelle est la place des auteurs femmes et des autres minorités dans la science-fiction et comment est-ce qu'on fait pour leur donner de la place. Je voulais savoir quelle était votre politique là-dessus au niveau éditorial, parce qu'on a rarement le point de vue des éditeurs sur cette question.
Yann ?
D'abord, on lit les textes. Moi, par exemple, sur les manuscrits, j'ai une politique assez simple, c'est que je ne regarde pas le nom de la personne, je ne regarde pas le titre, je ne regarde pas le CV. Je lis le texte.
On n'a pas le temps. Hein. Si on commence à lire tout ce que vous avez mis avant, on lit moins longtemps le texte.
Voilà, donc je préfère, en fait, la première chose que je vais juger, c'est ça. Ça va être le texte. Derrière, la question... est-ce qu'on va sélectionner spécifiquement, je crois que la réponse est non, mais par contre naturellement, parce que on reste une équipe plutôt alerte sur ces questions là, il se trouve que on publie quasiment autant de femmes que d'hommes, il me semble, en tout cas en nouveaux auteurs depuis 5-6 ans. Je pense que c'est une répartition qui s'est faite assez rapidement. Dans les auteurs étrangers, l'année dernière, étaient représentés aux UTO de notre catalogue, Becky Chambers et Guy Gabriel Kay. Je réfléchis, mais il n'y a pas de politique spécifique par rapport à l'auteur ou à l'autrice, puisque nous, ce qu'on va juger, ça va être le texte. Et du coup, je pense que c'est deux moments très, très différents. Voilà.
Mireille ?
Alors, on n'est pas spéciste, on n'est pas raciste, et on s'y emploie bien, mais effectivement, on n'a pas de politique sur la question du genre ou pour bien se conduire. Enfin, là, c'est, je vous ai parlé de, enfin, j'ai dit là, j'ai parlé de l'histoire du jardinier. On est de notre temps et on est attentif, mais à titre personnel, en tant qu'éditeur, nous ne sommes pas un éditeur militant. Notre être au monde, c'est de publier de la science-fiction, par exemple. Ça, c'est important, c'est intellectuellement et littérairement important pour nous. Pour autant, nous n'avons pas d'attitude de militante connue, en tout cas.
Très bien. Alors, c'est la fin de la conférence et on peut conclure, je pense, par une stand-up ovation pour les 30 ans de la Talente.